Bonjour et bienvenue, c'est mercredi, non mardi, je suis tout mêlée.
Mercredi.
Oui, c'est vrai. Hélène Denis de retour d'un long congé, ce que ça paraît. 11 octobre 2017, j'espère que vous allez bien. Contente d'être de retour. J'espère que vous avez passé un beau long congé, mais je sais que la plupart des gens revenaient mardi au travail, comme vous, Jean-Sébastien?
Tout à fait, tout à fait.
Oui.
Après un week-end à la flotte, je suis revenu en poste hier.
Ah oui, il n'y a plus tout le temps.
Oui, oui, vous n'étiez pas dans le coin, vous?
Mais non, je suis en train de manger du homard. Je veux pas écœurer personne pour mal parler français, là, mais c'est ça. Mm-hmm. C'est une tradition en ce qui me concerne. Alors, depuis quelques années, je me retrouve à Ogunquit et je mange des lobster rolls.
Eh bien, sachez que vous avez manqué un excellent 3 jours consécutifs de pluie automnale.
Savez-vous quoi, Jean-Sébastien? Il a plu pas mal aussi, oui. Là où j'étais. Surtout lundi, c'était le Columbus Day. Mm. Et puis, mais manger des homards à la pluie, c'est aussi agréable. Alors, allez-y donc, je vous écoute dans les éphémérides.
Eh bien, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter en ce 11 octobre, bonne journée internationale des filles.
Ah oui?
Oui, et également, c'est la journée internationale du coming out, donc journée internationale d'affirmation de son identité, qui a lieu depuis 1987. On sait que dans les années 80 et par le passé, les lesbiennes, homosexuelles et autres ne l'ont pas eu facile. Dans certains endroits du globe en 2017, la situation s'est améliorée, mais ce n'est évidemment pas le cas à l'ensemble de la planète. 11 octobre 1802, création officielle du parachute. Je suis très curieux de savoir qui s'est porté volontaire pour le tester en premier.
Allez-vous mettre la chanson « Une chute en parachute », j'ose pas dire le mot, là. Lindbergh.
1869, le soulèvement de la Rivière Rouge débute à Saint-Vital, au Manitoba, quand le clan de Louis Riel expulse des arpenteurs fédéraux de la terre du métis André Nau. 1917, les grèves et lockouts sont interdits au Canada pour la durée de la guerre en Europe. Donc 1917, Première Guerre mondiale. 1939, dans une lettre, et on saute d'une guerre à l'autre, Albert Einstein et d'autres savants préviennent le président américain Franklin Roosevelt que la bombe atomique est une possibilité. 1952, un 11 octobre, grande date dans l'histoire de la culture québécoise, la télévision de Radio-Canada diffuse le premier match de hockey alors que le Canadien de Montréal affronte les Red Wings de Détroit.
Ils avaient gagné, je crois.
Dans ce temps-là, ils
gagnaient. Non, c'est pas gentil.
Oh, Hélène.
Éditorial. Je fais comme vous. Vous me contaminez, Jean-Sébastien.
Tout est ma faute. Tenez-le pour dit. 1968 à Montréal, ouverture du congrès de fondation du Parti québécois. 11 octobre 1972 à Cleveland, les Nordiques de Québec disputent leur premier match dans l'Association mondiale de hockey. 1975, Bill Clinton marie Hillary Clinton, Rodham, donc Hillary Rodham Clinton. 1975, 11 octobre, une grande date dans la culture nord-américaine, anglo-saxonne principalement, l'émission Saturday Night Live fait son apparition, émission qui est encore en ondes en 2017 et qui a vu naître des grands noms de la comédie tels que Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Belushi, Bill Murray, Eddie Murphy, Chris Rock, Adam Sandler, Mike Myers.
Une émission que Donald Trump regarde religieusement.
Assurément. 1991, le service de renseignement de l'Union soviétique, le KGB, est dissous. 1993, à Oslo, l'éditeur William Nygaard, qui fait traduire les versets sataniques de Salman Rushdie, est blessé dans un attentat commis au nom de l'islam. En 2008, le 11 octobre, un homme de Belgique, M. Luc Kosterman, a établi un nouveau record de vitesse pour avoir conduit un véhicule, et ce monsieur est non-voyant. Donc, cet homme aveugle a conduit une Lamborghini qui lui fut prêtée, et il roula à 309 km/h, rien de moins.
Ouh! C'est vite, ça?
Il faut avoir confiance, oui, de 309 km/h. Il était accompagné d'équipement ainsi que d'un humain qui était son copilote, mais c'était lui qui pilotait. 2012, l'unité permanente anticorruption entreprend des perquisitions à Laval dans des bâtiments d'entreprise œuvrant dans le secteur de la construction tel qu'on peut s'en rappeler. 11 octobre, c'est l'anniversaire de décès également et je terminerai par cette petite information. En 1963, à 47 ans, la chanteuse française Édith Piaf.
Ah oui, 47 ans, c'est tellement jeune. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. J'aimerais en profiter aussi pour saluer et dire un grand merci à François Brodeur qui a occupé ce siège, qui a animé les voies de service vendredi et hier, et puis qu'il était aussi à la barre de l'Hyperactualité hier. Merci, François. À la une de la presse, aujourd'hui, imposant remaniement ministériel, chaise musicale, plus de la moitié des 25 ministres seront mutés aujourd'hui ou verront leurs responsabilités modifiées. École secondaire, une nuit dehors pour une place sur la liste d'attente. La chronique de Patrick Lagacé, Robert Piché, l'homme. Blackhawks 3, Canadiens 1, un seul maigre but. Alors, remaniement ministériel qui se déroule en ce moment et on apprend en manchette qui a été actualisée dans la presse. Ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie, Pierre Arcan deviendra ce matin président du Conseil du Trésor. La décision s'est prise après plusieurs heures de valse hésitation. Pendant une partie de la journée hier, M. Arcan devait aller au transport, un poste qu'il avait accepté avec beaucoup de réticence. Ce changement rend Pierre Moreau disponible pour un poste avec plus de visibilité. La cérémonie d'assermentation aura lieu à 10 heures au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Et concernant l'imposant remaniement ministériel, Denis Lessard parle de nouveaux visages pressentis pour un poste de ministre, Véronique Tremblay. 43 ans, qui a fait le saut en politique provinciale en remportant la partielle de Chauveau en 2015, visage connu du grand public, Mme Tremblay a fait carrière dans les médias comme journaliste et chroniqueuse, notamment pour le réseau TVA, le FM 93 et le Journal de Québec. Elle est adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie depuis février 2016. Autre nouveau visage, Isabelle Melançon, André Fortin et Marie Montpetit. La chronique de Patrick Lagacé intitulée « Robert Piché, virgule, l'homme ». Ce qui s'est passé après que Robert Piché a réussi à poser son Airbus A330 aux Açores est connu et archi-connu. On a appris que dans une autre vie, le héros du vol 236 d'Air Transat avait fait de la prison aux États-Unis pour avoir transporté de la drogue aux commandes d'un petit avion en 1985. J'étais au Journal de Montréal à l'époque et j'avais bossé sur cette histoire avec mes doués collègues Jean-Michel Gauthier, aujourd'hui décédé, et Dominique Fugère. Le journal nous avait même envoyé en Géorgie, Jean-Michel et moi, pour enquêter sur l'arrestation et l'emprisonnement du jeune Robert Piché. Mais le public avait détesté ces révélations sur le passé du héros du vol 236 d'Air Transat. Il nous reprochait d'avoir voulu transformer le héros en zéro. Le ressac avait été violent. Nous avions été submergés de courriels et de lettres. On en voyait encore de telles choses. Il parle de lettres ici, de lecteurs furieux. Jean-Michel recevait encore des appels courroucés 3 semaines après son retour de Géorgie. 16 années ont passé et en ce matin d'un automne qui a encore l'air de l'été, Robert Piché est assis devant moi pour une entrevue soulignant sa retraite forcée par ses 65 bougies. L'âge de la retraite imposé par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, aux pilotes de gros porteurs. Je dis à Robert Piché que nous avions une théorie au Journal de Montréal dans les premiers jours qui ont suivi son exploit. C'est son passé de pilote de brousse qui lui avait permis, contre toute attente, de poser l'A330 en planant jusqu'aux Açores. « C'est le cas, Robert? » « Non, rétorque-t-il du tac au tac. C'est la prison qui m'a permis de faire atterrir l'avion. C'est en prison que j'ai développé mon instinct de survie. Quand on a perdu tout le carburant, mon subconscient m'a dit « La survie? » J'ai un dossier là-dessus. Attends, je vais te le sortir. Comme pilote, t'es entraîné à être en urgence. Là, j'étais en survie, et la survie vient de la prison. En prison, j'ai appris à passer par-dessus ma peur. Sans son passage en prison, peut-être que l'entraînement de pilote de ligne de Robert Pichet n'aurait pas été suffisant pour faire atterrir l'avion aux Açores. C'est ce qu'il croit. Aujourd'hui encore, n'en déplaise aux lecteurs de l'époque qui avaient haï les révélations sur le passé du commandant, je suis convaincue que cet aspect de la vie de Robert Pichet était d'intérêt public. Parce qu'on ne peut pas comprendre le commandant Pichet sans comprendre Robert Pichet, le détenu, Robert Pichet, l'homme. Demain, il pilotera un Airbus d'Air Transat pour la dernière fois, un court vol au profit de sa fondation Robert Pichet qui épaule et finance des organismes œuvrant auprès des personnes aux prises avec des dépendances à l'alcool, à la drogue et aux jeux. Je suis probablement le 20e à pondre un reportage sur Robert Pichet à l'occasion de sa retraite. Mais à propos du pilote, à propos du mythe, tout a été dit. Alors permettez que je parle de l'homme. On peut quantifier le nombre de personnes que Robert Pichet a contribué à sauver en posant son Airbus aux Açores en 2001. 306 personnes. Mais on ne pourra jamais quantifier le nombre d'hommes et de femmes que Robert Pichet a contribué à aider et à sauver en révélant publiquement qu'il est alcoolique. Ce genre de choses se quantifie mal. Sauf que quand Robert Pichet parle publiquement et sans tabou de cette rigoureuse honnêteté avec soi-même que doivent avoir les alcooliques dans des entrevues ou des conférences, quand il dit que lui aussi aurait pu tout perdre à cause de l'alcool, c'est sûr que son exemple aide quelqu'un quelque part. « En consommant, je cachais une hypersensibilité », me dit-il. La majorité des alcooliques et des toxicomanes, on a une boule dans l'estomac. Cette boule dont parle Robert Pichet, elle se développe à partir de traumas différents selon les personnes, mais on l'a tous. Et on consomme pour la faire disparaître. Et si je suis rigoureusement honnête avec moi-même, même si le vol 236 m'a donné crédibilité et notoriété, je ne suis pas très différent de l'itinérant qui, lui, a tout perdu à cause de sa dépendance. Alors, au-delà du pilote mythique, Robert Pichet, l'homme, a fait œuvre utile en parlant publiquement de sa dépendance, une dépendance qui est semblable à celle de votre frère, de votre mère, de votre fils, et peut-être de la vôtre. Je voulais dire à quel point c'est important, sachant à quel point les problèmes de dépendance sont répandus. Un dernier truc à propos de Robert Pichet, l'homme. Je n'ai jamais vu son histoire comme étant celle d'un héros devenu zéro, même qu'à l'époque, je croyais que c'était celle d'un zéro devenu héros. J'avais tort. Pourtant, je souscrivais ainsi à une trame narrative très simple qui avait le mérite d'illustrer une histoire de vie complexe. L'universalité de l'histoire de vie de Robert Pichet, c'est que nous traînons tous des parts d'ombre. Nous sommes tous le fruit de zones plus ou moins grises. Nous avons tous des bibittes qui font de nous qui nous sommes ce que nous sommes. Ces parts d'ombre peuvent nous plomber et même nous tuer. Mais elles peuvent aussi nous rendre plus forts, meilleurs même. Ce fut le cas de Robert Pichet. Et l'histoire de Robert Pichet nous rappelle que les humains sont des êtres complexes et multidimensionnels. Des êtres qui se résument souvent bien mal en un coup d'œil, en une première impression, en une manchette. C'est facile de l'oublier. Je m'inclus là-dedans. Bonne retraite, Robert. Une nuit dehors pour une place, point de suspension, sur la liste d'attente. Des parents dénoncent le processus d'admission à l'école secondaire publique Académie de Roberval qui offre un programme enrichi. C'est fou raide. La course à l'inscription dans les écoles secondaires a pris des airs de concerts populaires pour des parents de Montréal, dont certains sont allés jusqu'à passer la nuit dehors pour avoir une chance de voir leur enfant entrer à l'école secondaire publique Académie de Roberval. Sur le trottoir hier matin, plusieurs dizaines de personnes attendaient patiemment l'ouverture des portes de cette école du quartier Villeray qui offre un programme enrichi. Pour conserver la priorité de leur enfant sur la liste d'attente de l'établissement qui ne peut accueillir que 114 élèves, ils devaient l'inscrire selon le principe du premier servi. Une situation qui touche 163 élèves qui ont réussi l'examen d'admission, mais qui doivent espérer que d'autres qui ont obtenu de meilleures notes qu'eux se désistent. En conséquence, quelques parents avaient passé la nuit emmitouflés sur des chaises pliantes devant la porte de cette école de la Commission scolaire de Montréal. Certains y étaient depuis lundi midi. On aurait très bien vécu avec le fait qu'on aurait pris les meilleurs et qu'on nous appelle au fur et à mesure. Là, on vient de jouer dans le zèle, dans la folie des gens, dit Geneviève Neveu. Et à la SDM, on assure qu'un mot d'ordre a été envoyé aux écoles pour qu'elles ne procèdent plus ainsi pour sélectionner les élèves, après que des files d'attente semblables se sont créées devant certaines écoles en plein hiver. Dans le cas de l'Académie de Robertval, le conseil d'établissement a voulu bien faire, dit le porte-parole de la commission scolaire.
My dear Lorenzo, you take my hand and understand the tears that I have cried. We light the candles and pour the wine and laugh as if you'll never leave my side. You take me in your arms and tell me that I'll always be the only one. And then you're gone. You come to see me on a Saturday, presenting peonies, knowing just what to say. We dance until the break of dawn. I turn my back and then you're gone. Swirling in a sea of stars, twirling to the strum of guitars. No one tangles quite the way you do, but now my dancing days with you are through. It's becoming clear. I know your tricks. I've heard your song. You swear your love and then you're gone. Outside my door, you want back in, just like before. Well, save your breath, don't make me yawn. You've had your chance. Now just
Pink Martini et la pièce And Then You're Gone.
Premier match à Montréal. Le Canadien de Montréal a reçu les Blackhawks de Chicago pour son premier match de la saison à domicile. Déception pour les partisans. Les joueurs montréalais se sont inclinés 3-1. Musique, les droits de copie privée en chute libre. Il faut imposer une redevance sur les téléphones intelligents, plaide l'organisme qui gère les droits d'auteur. Catalogne, l'indépendance n'est pas pour demain. La mise en œuvre de la déclaration solennelle est suspendue afin de négocier avec Madrid. Parler français sur la bottine avec Dans mon livre à moi, Olivier Niquette propose une recension amusée de citations de commentateurs sportifs. Remaniement ministériel, c'est ce mercredi matin que le premier ministre Philippe Couillard présentera son conseil des ministres remaniés. Sears Canada demande à la Cour de l'autoriser à liquider tous ses magasins au pays. Rosalie Jeté, la conciliation école et maternité. Et Netflix se défend d'avoir obtenu un quelconque avantage fiscal du gouvernement fédéral. Le premier ministre Justin Trudeau se dirige vers Washington pour resserrer les liens avec les États-Unis au moment où une majorité de Canadiens ne souhaitent pas voir leur pays suivre l'exemple de leurs voisins du Sud, révèle une nouvelle enquête. Quelque 60 % des participants à un sondage Écosse-La presse canadienne mené auprès de 4 839 Canadiens ont indiqué ne pas être intéressés par une approche Canada First qui imiterait la tactique America First du président Donald Trump. De plus, 80 % des personnes interrogées ont dit être en désaccord avec la manière dont M. Trump dirige son pays et 52 % souhaitent voir le Canada se distinguer encore plus des États-Unis. En revanche, 22 % des participants à l'enquête croient que le Canada devrait s'isoler davantage sur la scène internationale, une hausse importante après des années de stabilité. 37 % des personnes interrogées sont d'avis que les règles canadiennes en matière d'immigration ouvre les portes du pays à trop de membres des minorités visibles, alors que 42 % croient que le Canada en accueille juste assez et que 15 % estiment qu'on pourrait en recevoir plus. Selon le président d'Écosse, Frank Graves, le nombre de citoyens trouvant qu'il y a trop d'immigration a atteint un sommet juste avant la dernière élection fédérale et serait en déclin depuis. Enfin, 29 % des participants ont dit avoir été victimes de racisme au cours du mois précédent et 33 % ont dit croire que le racisme est de plus en plus répandu. Le sondage par téléphone a été mené entre le 15 septembre et le 1er octobre. Jagmeet Singh à la conquête des Janois. Il souhaite que la consultation sur la discrimination systémique et le racisme se fasse non seulement au Québec, mais partout au pays. Il croit que le projet de loi libérale sur la neutralité religieuse échouera au test des tribunaux. Il s'engage à respecter le verdict d'un référendum sur l'indépendance du Québec. Mais les prises de position de Jagmeet Singh et les électeurs du... Mais les prises de position de Jagmeet Singh, les électeurs du Lac-Saint-Jean ne s'y intéresseront pas s'ils décident de ne pas voter au-delà du turban. Fraîchement élu, le chef du nouveau Parti démocratique a pris un bain de foule mardi à Alma, où il est allé prêter main-forte à la candidate Gisèle Dallaire qui brigue les suffrages à l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean. Ceux qui l'ont croisé sur leur chemin se sont montrés enjoués, rivalisant d'égaux portraits à faire pâlir d'envie le premier ministre Justin Trudeau. Jagmeet Singh est de la même trempe. Il empoigne les mains des passants davantage qu'il ne les serre, s'avance sans notes devant les journalistes et ne s'encombre pas du traditionnel veston-cravate. Le courant passe visiblement entre lui et les citoyens, mais l'impression qu'il laisse derrière n'est pas unanime. Côté baisse les yeux, alors on parle ici de Lise Lessard et de M. Robert Côté qui baissent les yeux sur le journal qu'ils tiennent entre les mains. Jagmeet Singh est en première page. « C'est quoi son nom? » demande l'un. « Jagmeet? » « C'est dur à prononcer, » remarque l'autre. Dans un autre restaurant, un homme lance sur de lui. « C'est un Singh. Il doit venir du Punjab. Les gens n'ont pas vu ça souvent ici. » Jagmeet Singh est plutôt né en banlieue de Toronto, de parents qui ont bel et bien immigré du Punjab, une région du nord-ouest de l'Inde dont il a appris la langue. Et il aurait bel et bien du mal à s'entretenir dans celle-ci au lac Saint-Jean, où seulement 5 personnes ont déclaré parler le Punjabi en 2016. La sélection du jury qui devra décider du sort de l'entrepreneur en construction Tony Accurso a débuté mardi au Palais de justice de Laval. Près de 200 personnes ont été convoquées pour arriver à former un jury de 12 jurés en vue du procès qui doit débuter le 19 octobre. M. Accurso fait partie des 37 personnes arrêtées par l'Unité permanente anticorruption, UPAC, relativement à un système de collusion et de corruption. « Projet Montréal prolongerait sa ligne rose jusqu'à la Chine. La nouvelle mouture du projet de ligne rose de métro imaginé par Projet Montréal comporte désormais 29 stations au lieu de 16. Non seulement cette ligne relierait-elle Montréal-Nord au centre-ville, mais elle pourrait s'étendre jusqu'à la Chine, le tout à un coût estimé de 5,9 milliards de dollars. La candidate à la mairie de Montréal, Valérie Plante, a présenté mardi les détails du projet qui constitue la promesse phare de sa campagne. Une association consacrée à la défense des intérêts des enfants autochtones victimes de la rafle des années 60 dénonce l'entente intervenue vendredi dernier avec Ottawa au motif qu'elle ne prévoit rien pour les Métis et les Indiens non inscrits. « Je suis très déçue qu'une entente inclusive n'ait pas pu être trouvée de manière à ce que ce moment historique soit significatif pour tous les survivants de la rafle des années 1960 », a indiqué en conférence de presse Duane Morisseau-Beck, le directeur et cofondateur du National Indigenous Survivors of Child Welfare Network, qui a ajouté se sentir coupable car il reconnaît que l'entente a du bon. « Après avoir lu l'entente, j'ai senti un vide dans mon ventre. Était-ce vrai? Avait-il oublié ma nation métisse? Immédiatement, j'ai pensé à la vieille tactique de diviser pour mieux régner. » La rave des années 60 fait référence à la décision du gouvernement fédéral à cette époque de déléguer aux provinces la responsabilité d'offrir des services d'aide à l'enfance aux Autochtones. On estime que jusqu'à 30 000 enfants autochtones ont alors été retirés de la garde de leurs parents biologiques et placés dans des familles non autochtones où ils ont perdu leur langue et leur culture. En février dernier, un juge ontarien a statué dans la cause Brown qu'Ottawa avait failli à son obligation fiduciaire envers les Autochtones en ne s'assurant pas auprès des provinces que la culture des enfants placés serait préservée. Ottawa a annoncé vendredi qu'il versera une somme de 750 millions pour dédommager les survivants visés par cette cause. Or, cette cause concerne seulement les Indiens inscrits. Ottawa assure que son intention n'est pas d'en rester là. Le commentateur politique Luc Lavoie n'a pas commis d'infraction criminelle en tenant des propos controversés sur la chasse aux séparatistes, tranche la Sûreté du Québec. La SQ avait entamé une enquête après la phrase « choc » dite le 3 octobre dernier lors de l'émission La Joute, diffusée sur les ondes de la chaîne d'information continue LCN. Une plainte avait été déposée contre M. Lavoie.
Mon boss va brûler.
Retour en 1992 avec Vilain Pingouin et la pièce Petite vie, petite misère.
Hollywood ébranlé par le scandale sexuel alors qu'on voit Harvey Weinstein et ses victimes, entre guillemets, Angelina Jolie, Ashley Judd, Rosanna Arquette, Rose McGowan, Judith Godrèche et Gwyneth Paltrow. Il voulait jouer sans contact, on parle de hockey, suspendu, point d'exclamation. Billets chers et mauvais début de saison, les fans déçus. Alors, c'est la défaite du Canadien de Montréal dont il est question ici avec une photo où on voit un joueur de hockey par terre qui vient de tomber. Desjardins ne veut rien savoir du pote. Et Sears, c'est fini. Suspendus parce qu'ils ne veulent pas de plaquage. Deux joueurs de hockey qui ont déjà subi de sérieuses blessures ont été suspendus parce qu'ils refusent de jouer dans le Midget BB2B où les mises en échec sont permises. Simon-Pierre Jacques, 16 ans, et un ado de 17 ans de Terrebonne qui refuse d'être identifié devront purger une suspension de respectivement 2 et 1 mois parce qu'ils ne veulent plus être frappés sur la glace. La seule chose que je veux, c'est de jouer au hockey et avoir du plaisir sans être blessé. En ce moment, j'ai juste peur de faire une autre commotion, a expliqué le jeune de 17 ans. L'adolescent qui vit sa dernière saison comme joueur de hockey mineur a déjà subi 2 commotions cérébrales en 2014-2015. Une troisième commotion pourrait avoir des conséquences irréversibles sur son cerveau. Les jeunes qui font 3 commotions cérébrales sont 10 fois plus à risque de contracter des maladies comme l'Alzheimer ou des problèmes d'apprentissage à l'école, ce qui hypothèque leur avenir, explique Dave Ellenberg, spécialiste des commotions cérébrales. De son côté, Simon-Pierre Jacques a subi une grave blessure au dos il y a 2 ans. Les deux joueurs ont disputé les 5 premières parties au début de la saison avec les Titans de la Rive-Nord, niveau Midget 2B, mais ont demandé d'être transférés, dans le Midget A, où les mises en échec ne sont pas permises. Les deux hockeyeurs ignoraient que les mises en échec étaient permises à ce niveau puisque Hockey Québec a effectué un changement de réglementation cette année. À la suite de leur demande, ils ont été suspendus par le président de l'organisation des Titans de la Rive-Nord, Raymond Dion, qui n'était pas disponible hier pour répondre au journal. Simon-Pierre Jacques a porté plainte à Hockey Québec après sa suspension. Hockey Québec, tout comme Robert Brisebois, vice-président de Hockey Laurentides-Lanaudière, n'endosse pas une suspension pour ce jeune, a expliqué la porte-parole de Hockey Québec, Marie-Joëlle Desauniers. La décision rendue par M. Dion pourrait être révoquée alors qu'un comité de discipline sera chargé de trancher dans les 2 dossiers. Dans la foulée du remaniement ministériel qui a lieu en ce moment, et le ministre François Blais perdra la responsabilité de la capitale nationale au profit de Sébastien Proulx, a appris notre bureau parlementaire. Après avoir renoncé pendant des mois à remanier son équipe de façon importante, Philippe Couillard dévoile enfin la nouvelle composition de son Conseil des ministres depuis 10 heures ce matin. Le premier ministre a passé la journée d'hier à rencontrer dans un lieu de Montréal gardé secret ceux qui seront appelés à jouer un nouveau rôle au sein de son équipe ministérielle. À l'Assemblée nationale, en fin de journée, 30 chaises et 2 fauteuils ont été soigneusement installés à l'avant du Salon Rouge en vue de la cérémonie d'assermentation avec le lieutenant-gouverneur. À la défense d'un présumé jeune chauffard de 15 ans, Antoine Morissette Boucher, Mathieu Durand et Philippe Bernard, tous âgés de 16 ans, sont tristes de voir les gens condamner le jeune conducteur sur les réseaux sociaux et ils se portent à sa défense. Le seul qui avait son permis n'était pas en état de conduire, ni aucun des autres passagers. Il a essayé de bien faire, explique Philippe Bernard. L'automobiliste de 15 ans devrait être accusé de conduite dangereuse causant la mort et négligence criminelle causant la mort. Sa comparution est prévue le 22 novembre. Vers 2 heures dans la nuit de lundi, 5 ados qui prenaient place dans une Volkswagen ont fait une violente sortie de route sur le boulevard de la base de Roc à Joliette. Il semble que l'automobile conduite par un jeune sans permis avait été subtilisée à la mère d'un des 5 garçons. Une vidéo montrant le conducteur au volant de cette même voiture, une semaine avant le drame, confirme que ce n'était pas la première fois que les jeunes agissaient ainsi. La mère de l'adolescent de 16 ans, qui est dans le coma, a déclaré ne pas en vouloir au chauffeur et a dit que son propre fils aurait pu être au volant. L'avocate Amélia S. Fouquez revient à la charge dans l'affaire Marcel Aubu en sommant le syndic du barreau du Québec de se pencher de nouveau sur les allégations de harcèlement sexuel qu'elle impute à celui qui a été nommé avocat émérite par l'institution. C'est la fin pour Sears au Canada. À moins d'un revirement inattendu, le détaillant fermera tous ses magasins d'ici la fin de l'année. Hier, l'entreprise présente au pays depuis plus de 64 ans a indiqué qu'elle demandera vendredi à la Cour supérieure de l'Ontario d'amorcer sa liquidation et de mettre fin à ses activités. Actuellement, Sears Canada compte 130 magasins d'un océan à l'autre et plus de 12 000 employés, dont la plupart occupent des postes à temps partiel. Depuis 2012, Sears Canada a enregistré des pertes d'exploitation combinées de 10,5 milliards de dollars. Une femme de 86 ans a été happée mortellement en fin d'après-midi hier à proximité du centre commercial Place Rosemère à Rosemère. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident se serait produit vers 16h15 près du centre commercial. La victime a été conduite dans un centre hospitalier de la région où son décès a été constaté en soirée, a indiqué l'enquêteur Luc Larocque. De violents incendies dans lesquels au moins 15 personnes ont péri, selon un dernier bilan, continuaient hier de ravager la Californie et notamment ses régions viticoles au nord de San Francisco. Des milliers de maisons et des vignobles ont déjà brûlé. Les incendies, dont la plupart ont débuté de façon explosive dimanche soir, ont déclenché la panique dans les régions viticoles de Napa, Sonoma et Mendocino, et de nombreux vignerons ont dû fuir leurs vignobles et caves. Selon les pompiers de Californie, plus de 25 000 personnes ont fui les incendies. L'opposition dénonce l'entente avec Netflix. Tant qu'à prendre la parole pour remettre les pendules à l'heure, Netflix pourrait dévoiler le contenu du « deal », entre guillemets, a suggéré le porte-parole du NPD en matière de culture, Pierre Nantel. Le géant du divertissement américain a lancé mardi une opération de relations publiques pour remettre les pendules à l'heure, alors que des théories du complot circulent, selon lui, depuis l'annonce de l'entente avec le gouvernement canadien. Netflix précise qu'elle n'a pas à facturer les taxes à ses clients en vertu des lois canadiennes actuelles, ce qui est effectivement le cas. Il en revient à Ottawa de changer la loi, mais les libéraux de Justin Trudeau refusent de le faire, prétextant que les Canadiens sont déjà assez taxés. Netflix dément aussi que la hausse de tarifs récemment annoncée aurait un lien avec l'investissement de 500 millions qu'il fera au Canada. La hausse n'a rien à voir avec nos investissements. Cette augmentation était prévue depuis longtemps, a souligné une porte-parole de Netflix. Le porte-parole du Parti conservateur en matière d'innovation, Maxime Bernier, a lui aussi réclamé plus de transparence de la part de Netflix, particulièrement en ce qui concerne les plans de l'entreprise pour créer du contenu francophone. En vertu de la loi, Ottawa ne peut pas dévoiler le contenu du pacte conclu avec Netflix. Le Bloc québécois refuse de son côté de mettre le blâme sur la multinationale. Le développement culturel, ce n'est pas la responsabilité de Netflix, c'est la responsabilité de la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, croit la députée Monique Posé. Les mesures promises se font toujours attendre. Le candidat pour l'équipe de Nicodère dans le district Jeanne-Mance, Marc-Antoine Desjardins, a indiqué lundi sur la page Facebook du projet Cyclovia Camillien-Houde, dont il est l'instigateur, que la Ville de Montréal est sur le terrain pour appliquer les mesures de sécurisation de la montée Camillien-Houde. Ça se passe maintenant, peut-on lire. M. Desjardins a indiqué en entrevue que des bollards seront installés sur la ligne jaune au milieu de la rue afin d'empêcher les automobilistes d'effectuer des demi-tours, une manœuvre illégale qu'a commise le conducteur du véhicule qui a happé Clément Ouimet la semaine dernière. Un marquage au sol indiquera aux automobilistes qu'ils ne sont pas autorisés à garer leur véhicule en bordure de la voie et un plus grand nombre de policiers surveilleront cette voie qui est très achalandée aux heures de pointe, a-t-il affirmé. Pourtant, notre journaliste, qui est demeuré 2 heures sur la voie Camillien-Houde hier après-midi, n'a croisé aucune voiture de police et aucun employé de la ville n'était à pied d'œuvre pour mettre en place la signalisation promise. Ces mesures d'urgence seront appliquées dans les prochains jours, a alors nuancé Marc-Antoine Desjardins.
Nouveauté de Saratoga, ça s'intitule « Je t'attends dehors ».
C'est à la page 2 du Journal de Montréal, la photo qui a changé la vie d'un barbier punk de Rouen. La photo d'un barbier punk de l'Abitibi couché au sol en train de couper les cheveux d'un enfant autiste a fait le tour du monde, ce qui l'a propulsé comme vedette mondiale dans le monde des barbiers. Le barbier Francis Jacob, surnommé Friends, a passé la fin de semaine à donner des entrevues dans les plus grandes chaînes de télé au monde. Une photo de lui en train de couper les cheveux de Wyatt, un enfant autiste de 7 ans, a été vue des millions de fois et il a reçu des milliers de messages de parents de partout. C'est fou! Je ne pensais jamais que ça aurait un tel impact. Pour moi, peu importe qui est sur la chaise, je vais toujours faire mon possible pour répondre à son besoin. Les gens veulent des bonnes nouvelles. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui arrive dans une drôle d'époque, dit-il. La mère de Wyatt, Fauve Lafrenière, affirme que cette simple photo a sensibilisé beaucoup de gens à la réalité des personnes autistes. Elle a longtemps cherché un bon salon de coiffure pour son fils qui n'aime pas se faire toucher. Avec Franz, c'est différent. C'est l'amour qu'il a pour Wyatt qui fait la différence. Il prend le temps et n'est pas à l'argent, dit-elle. Ça peut parfois prendre jusqu'à 90 minutes au barbier pour compléter la coupe de l'enfant. Depuis une semaine, je me suis créé un bon réseau de barbiers partout dans le monde. J'espère avoir inspiré des gens, dit-il. Franz a ouvert le Franz Authentischen Barbier il y a 2 ans et est immédiatement devenu un personnage à Rouyn-Noranda. Avec sa grosse barbe, ses tatouages et son habillement original, il attire l'attention. Des gens font jusqu'à 3 heures de route pour se faire coiffer par celui qui n'est jamais à court d'anecdotes. J'ai eu 50 vies avant d'être barbier. J'ai fait de la bouffe au Japon, été DJ au Mexique. Je suis un punk qui a rushé pas mal dans ma vie et j'ai tout gamblé pour ouvrir ça ici. Ben oui, mon salon est petit, croche et sale. Il n'y a même pas de miroir. Mais en même temps, on est nostalgique d'une autre époque où on jasait et on comble ça. Son salon de 50 pieds carrés environ est rempli de photos, drapeaux et objets d'époque. Un crachoir qui vient d'un vieil hôtel du Far West cohabite avec des ossements de mammifères et des photos de ses ancêtres. L'idée était de reproduire les barbershops de l'époque. Il n'y a pas de place pour que les hommes puissent jaser à Rouyn-Noranda. Alors ici, c'est ça qu'on fait, on jase, dit-il. Son salon est réservé aux hommes et on s'y présente sans rendez-vous. Parfois, les clients trinquent et discutent autour d'un verre. Franz ne fournit pas l'alcool, mais des clients laissent parfois des bouteilles. Alors, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le barbier Francis Jacob, de son vrai nom, qualifie sa soudaine célébrité de plus grosse dose d'amour qu'il aura jamais reçue dans sa vie. En mortaise, donc, la photo qu'il a fait connaître alors qu'il s'est allongé près d'un enfant autiste pour le coiffer. Dans le devoir, parler français sur la bottine avec, dans mon livre à moi, Olivier Niquette propose une recension amusée de citations de commentateurs sportifs. C'est un article de Dominique Tardif. En février 2011, un journaliste de l'agence QMI rapporte dans un article intitulé « Sobun dérange encore dans le vestiaire », une brève engueulade entre le jeune joueur des Canadiens de Montréal, Piqué Sobun, qui avait laissé traîner son chandail sur le plancher du vestiaire et son vétéran coéquipier Hall Gill, pour qui pareil comportement constituait un affront à tous ces bras meurtris qui jadis avaient porté le flambeau. Les médias locaux étudieront pendant des heures sous tous ses angles cette escarmouche, énième preuve que le vide sait parfois féconder les tirades les plus prolixes. À peu près personne ne se souvient de cet incident, sauf Olivier Niquette. Le gars qui a un peu de misère à communiquer, ce n'est pas qu'un personnage. Entendre des gens capables de parler comme ça pendant des heures de la composition du troisième trio de Canadiens, ça m'impressionne et ça me rend jaloux, confie le plus circonspect des hommes de radio qui récolte les citations improbables d'experts sportifs depuis la mise en ligne en 2004 du site Web, le Spornographe, devenu de 2009 à 2012 la mythique émission que l'on connaît sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Le collaborateur proverbialement timide de la soirée est encore jeune, lance aujourd'hui dans Mon livre à moi, recueil recensant 400 blitzkrieg contre le français menés par des commentateurs ou des athlètes. De la langue du sport se dégage une certaine poésie, écrit-il dans l'introduction de cet exercice plus taquin que baveux, laissant transpirer presque autant que Price en tir de barrage, une grande tendresse pour les nombreuses ligues du vieux poil qui occupent les ondes radio et télé. Mais qu'est-il advenu de la langue soignée de René Lecavalier? Difficile de ne pas se le demander devant l'hilarante philosophie de vestiaire de certains journalistes. L'inévitable risque d'arriver, Yvon Penneau. Les métaphores maladroites d'anciens entraîneurs. Après la mise en échec de la tendresse, on entendait le silence, dit Michel Bergeron. Ainsi que les expressions consacrées que massacre obstinément Jean Perron ou son héritier en matière de péronisme, Mario Tremblay. Entre parenthèses, faut que tu prennes ton gaz égal. Laissez un peu la soupe chaude retomber. Une des choses qui sauvait René Lecavalier, c'est qu'il ne passait pas sa vie à parler de hockey. Il n'en parlait que pendant les matchs, alors qu'aujourd'hui, les analystes participent à des débats avant et après, alimentent des blogs, commentent sans arrêt, fait valoir le professeur titulaire à l'Université de Montréal, Benoît Melançon. Pour l'auteur de l'abécédaire du hockey, Langue de Poc, cette impression que la langue du sport se détériore s'enracinerait essentiellement dans un effet de masse. La quantité aussi imposante que Zdeno Chara de discours générés au sujet du bleu-blanc-rouge ne peut que provoquer certains accrochages parfois. Mais si on compare Marc Denis à Gilles Tremblay, il n'y a pas de déclin, au contraire, assure-t-il, avant de brandir certaines phrases truffées d'anglicismes tirées des journaux des années 10, 20, 1930. Puis, à ce moment, le Hamilton eut les breaks, lisait-on, par exemple, dans La Patrie le 2 janvier 1925. Comment accueille-t-on pareil concentré de langue malmenée quand on connaît intimement l'autre côté de la chandelle, pour paraphraser l'attaquant des Penguins de Pittsburgh, Maxime Talbot? Je mentirais si je disais que le livre d'Olivier Niquet ne m'a pas fait rire, avoue le chef d'antenne de TVA Sport, Paul Rivard, qui s'exprime dans un français irréprochable, mais qui, en tant qu'animateur de la défunte émission de TQS 110%, a été témoin de nombreux cross-check dans le dos, assénés à la langue maternelle de Patrick Roy. Il m'est arrivé de signaler une erreur, un cliché à un de nos collaborateurs, mais le danger, c'est qu'en leur disant de faire attention, on leur met un filtre. Quand tu veux que le jello prenne, que les gens s'emportent et s'enflamment comme on l'a souhaité à l'époque, tu dois permettre à tes intervenants d'être le plus naturel possible, précise celui pour qui le savoir des joueurs-nalistes, ces joueurs ayant troqué les patins pour le micro, éclaire de manière indispensable les enjeux d'un match. Le communicateur d'expérience rappelle aussi à la décharge de ses nombreux anciens plombiers propulsés stars du petit écran que l'art de s'exprimer à la télé suppose un véritable apprentissage. On se moque de leur bourde, mais leur job, ce n'est pas d'abord la justesse du langage, plaide Paul Rivard. Ils sont là parce qu'ils peuvent nous faire vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu. La langue abracadabrante des sportifs est-elle le symptôme de l'importance qu'accorde le Québec à une bonne maîtrise du français? Comment ne pas s'inquiéter en recevant comme autant de lancers frappés au visage les nombreuses phrases merveilleusement absconses que reproduit Olivier Niquet? Je n'irai pas jusqu'à en tirer des conclusions générales, mais quand on entend parler des footballeurs français, on se dit qu'ils n'ont pas le même rapport à la langue, observe avec prudence Benoît Melançon. La langue de bois que doivent embrasser hockeyeurs et entraîneurs au risque d'être punis par leur patron expliquerait peut-être davantage l'opacité de certaines de leurs déclarations ponctuées de nombreux points de suspension, suggère-t-il. Quand Claude Julien dit de Patrice Bergeron qu'il est blessé au corps, on est dans une langue à ce point désincarnée, dans des cachotteries telles que les phrases ne signifient plus rien. Je ne suis pas convaincu que Michel Therrien fait autant de fautes spectaculaires quand il va jouer au golf avec ses amis. Il est probablement moins stressé alors que lorsqu'il se retrouve devant une meute de journalistes à laquelle il ne peut rien dire, il finit par prononcer des phrases emberlificotées dans lesquelles tout le monde, lui compris, se perd. Dans mon livre à moi, Olivier Niquet, c'est publié chez Duchesne et du Rêve, un livre qui compte 296 pages.
Alex Nevsky et la pièce Polaroid sur Canal M.
Le président séparatiste met de l'eau dans son vin, Puigdemont suspend la déclaration d'indépendance et privilégie la voie médiane. Nous constituons la République catalane comme État indépendant et souverain de droit démocratique et social, lit-on dans ce texte signé par les trois partis indépendantistes. Mais le président la suspend en appelant au dialogue, conformément à son allocution préalable devant le Parlement régional, a précisé un porte-parole du gouvernement catalan. En paraphant ce document, Carles Puigdemont a dit tirer les conséquences du référendum d'autodétermination marqué par des violences policières qui s'est tenu le 1er octobre en Catalogne. Les séparatistes catalans affirment avoir remporté avec 90 % des voix et 43 % de participation à ce scrutin jugé illégal par la justice espagnole et boycotté par leurs opposants. Assez, disent-ils, pour déclarer unilatéralement l'indépendance au risque d'aggraver la pire crise politique en Espagne depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans. La plus vaste campagne de vaccination contre le choléra jamais menée au monde depuis Haïti a débuté hier dans les camps de Rohingya au Bangladesh pour tenter d'immuniser 650 000 de ces réfugiés de Birmanie vivant dans des conditions insalubres, faisant craindre une catastrophe sanitaire si une épidémie éclatait. Le nombre d'enfants et d'adolescents obèses dans le monde a été multiplié par plus de 10 depuis 1975, mais ceux en insuffisance pondérale restent encore plus nombreux, selon une étude publiée aujourd'hui qui appelle à lutter de front contre ces deux fléaux de la malnutrition. Si les tendances observées ces dernières années se poursuivent, l'obésité juvénile surpassera l'insuffisance pondérale d'ici 2022. Prédisent toutefois les auteurs de cette étude britannique dans la revue médicale britannique de Lancet. En 2016, 124 millions de jeunes de 5 à 19 ans étaient considérés comme obèses contre seulement 11 millions en 1975, évalue l'étude menée par l'Imperial College de Londres et l'Organisation mondiale de la santé. Le phénomène concerne toutes les régions du monde. Les pays les plus touchés sont certaines îles de Polynésie, tandis que ce taux atteint ou dépasse 20 % aux États-Unis, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Israël poursuit la colonisation. Israël va faire avancer différents projets pour la construction de plus de 3 700 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, y compris pour la première fois depuis des années dans la ville palestinienne d'Hébron. Le responsable israélien qui a donné cette information sous le couvert de l'anonymat n'a pas précisé quand les autorités se prononceraient officiellement. Mais la commission statuant sur de tels projets et relevant du ministère de la Défense doit se réunir les 17 et 18 octobre, a indiqué Agit Ofran, une responsable de l'organisation israélienne anti-colonisation, La Paix Maintenant. Ce sont 3 736 logements pour colons qui sont appelés à recevoir une approbation à différents stades de l'instruction des dossiers, a dit le responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Certains déjà existants pourraient en fait être reconnus rétroactivement. Toute la fratrie du tueur de Marseille interpellée. Les trois frères et la sœur du Tunisien qui a tué deux jeunes filles à Marseille le 1er octobre ont été entendus ces derniers jours et deux d'entre eux arrêtés en Europe sont soupçonnés de complicité de terrorisme. Avant-dernier d'une fratrie de cinq, Ahmed Anachi, 29 ans, décrit par des proches en Tunisie comme un consommateur de drogue peu enclin à la religion, a tué au couteau deux cousines à la gare Saint-Charles de Marseille avant d'être abattu par la police. Le groupe État islamique a revendiqué ces meurtres, mais les enquêteurs français n'ont rien trouvé qui puisse relier l'assaillant à l'organisation djihadiste. Des milliers de fonctionnaires français dans les rues. Salaire gelé, réduction d'effectifs en vue. Les fonctionnaires français se sont mobilisés hier, journée de grève et manifestation, pour dire leur ras-le-bol, ouvrant un nouveau front social pour le président Emmanuel Macron. Selon le ministère de l'Intérieur, 209 000 personnes ont manifesté dans toute la France, dont 26 000 à Paris. Le syndicat CGT, premier dans la fonction publique, a revendiqué le double, 400 000 manifestants. Après les récents mouvements contre les ordonnances réformant le droit du travail, ceux des retraités ou encore des chauffeurs routiers, la fonction publique est vent debout contre la suppression annoncée de 120 000 postes d'ici à la fin du quinquennat. Deux astronautes américains ont doté hier la Station spatiale internationale SSI de nouveaux yeux sous la forme d'une caméra haute définition et poursuivi les réparations sur l'indispensable bras robot de l'avant-poste orbital, a indiqué la NASA. La caméra remplacée par le commandant de l'expédition 53, Randy Bresnik, et l'astronaute Mark Van de Ay, avait mal vieilli et donnait une teinte rose aux images, a indiqué la NASA, alors qu'elle montrait les images en haute définition du nouvel équipement. Une deuxième caméra doit être remplacée lors de la troisième sortie prévue le 18 octobre. Auparavant, les deux réparateurs spatiaux avaient lubrifié l'une des deux mains, entre parenthèses les effecteurs de verrouillage en jargon technique, du bras manipulateur Canadarm 2 qu'ils ont remplacé le 5 octobre. We'll be right back. Actualité culturelle, Blade Runner 2049 fait sonner la caisse en salle au Québec. Contrairement aux États-Unis, où ses résultats au guichet ont été en dessous des attentes, le film Blade Runner 2049 du cinéaste québécois Denis Villeneuve a connu un départ fracassant au box-office québécois la fin de semaine dernière. Profitant d'un long week-end pluvieux, mais aussi certainement d'un effet Denis Villeneuve, la suite du film culte de 1982 a terminé largement en tête du box-office québécois, enregistrant le 5e meilleur démarrage de l'année dans les salles de la province, grâce à des recettes de 1 219 013 récoltées en 4 jours seulement. Selon les statistiques de l'agence Cinéac, 4 films seulement ont mieux fait que Blade Runner 2049 lors de leur premier week-end au Québec en 2017, soit Les Gardiens de la Galaxie 2, La Belle et la Bête, Le Destin des Dangereux et Détestable moi 3. La fin de l'omerta. Les célébrités hollywoodiennes dénoncent le producteur Harvey Weinstein. Perturbant, indéfendable, disgracieux, inacceptable. Les stars hollywoodiennes sont sorties par dizaines sur les médias sociaux pour dénoncer les agissements du puissant producteur Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel et même de viol sur plusieurs femmes pendant 3 décennies. Très puissant à Hollywood, Harvey Weinstein semblait bénéficier de l'omerta à propos de ses comportements déplacés. Le reportage du New York Times mentionnait que le producteur a acheté le silence de plusieurs actrices, les menaçant de leur faire perdre leur emploi si elles parlaient. Mis à la porte de sa propre entreprise, Weinstein Company, Harvey Weinstein est maintenant persona non grata à Hollywood. La compagnie a annoncé cette semaine qu'elle changerait de nom à la suite de ce scandale et qu'elle retirerait le nom de Harvey Weinstein du générique de ses productions. David Lynch, Xavier Dolan, Vanessa Redgrave et Nanni Moretti figurent parmi les invités de la fête du cinéma de Rome du 26 octobre au 5 novembre. La fête est devenue un lieu convoité où l'on vient parce qu'on est choisi, mais aussi parce qu'on choisit d'y venir, a déclaré Antonio Monda, directeur artistique de l'événement. Il a également annoncé qu'une star viendrait tous les soirs fouler le tapis rouge, dont David Lynch, qui recevra le 4 novembre un prix pour l'ensemble de sa carrière. Le réalisateur de Blue Velvet aura été précédé par Xavier Dolan, Nanni Moretti, Christoph Waltz ou Waltz, le romancier Chuck Palahniuk, l'acteur britannique Ian McKellen ou encore sa compatriote Vanessa Redgrave, 80 ans, qui viendra présenter Sea Sorrow, un documentaire consacré aux migrants. Céline Dion célébrera les 60 ans des prix Grammy le mois prochain. La chanteuse québécoise participera à Grammy's Greatest Stories, A 60th Anniversary Special, une émission rétrospective du réseau CBS. La chaîne promet de présenter des moments mémorables extraits des 59 premières éditions du gala, des images d'archives inédites et des entrevues exclusives avec quelques artistes dont Céline Dion, Christina Aguilera, Mary J. Blige, Aretha Franklin, Elton John, Bruno Mars, Chris Martin, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Sting, U2, Ed Sheeran et Dave Grohl ont également confirmé leur présence. Grammy Greatest Stories, A 60th Anniversary Special, sera diffusé le 24 novembre à 21h à CBS. Robert Lepage voit grand pour le futur théâtre Le Diamant. Il s'est dit persuadé que la salle de spectacle dont il a dévoilé les premières images hier deviendra la locomotive du milieu culturel à Québec. Le milieu culturel ne doit pas nous craindre. À Québec, c'est plein de beaux wagons, mais il n'y a personne pour tirer dessus. On espère que Le Diamant va créer un engouement pour attacher tout ça ensemble, a dit M. Lepage lors d'une entrevue au Journal de Montréal après avoir dévoilé son projet. Par le biais d'une visite virtuelle, Robert Lepage a offert une incursion dans cet édifice dont le cœur sera une salle multifonctionnelle de 625 places, accessible par un escalier monumental qui pourra accueillir autant du théâtre que de la musique et du cinéma. finalement, ça que c'était, comme le dit le groupe À la claire. Ensemble, alors je reprends, c'est finalement, entre guillemets, ça que c'était. Comme le dit le groupe À la claire ensemble, dans un de ses récents vers d'oreille, la troupe sort en tête des nominations du 12e gala alternatif de la musique indépendante du Québec, GAMIC, recevant 6 mentions. À la claire ensemble aura la chance de remporter un Lucien, le trophée du GAMIC, ayant récemment été nommé en l'honneur de Lucien Francoeur, dans les catégories artistes, albums, rap, vidéoclip, chansons pour ça que c'était, et spectacle de l'année avec l'Hostie Tour ainsi que Prix du public. Le groupe rock Chocolat, mené par le chanteur Jimmy Hunt, a quant à lui reçu 5 nominations au gala alternatif, entre autres pour l'album rock pour rencontrer Lolo, la pochette et le spectacle de l'année. Le trio de tête des nommés du GAMIC est complété par le trio Dear Criminals, qui a reçu 4 mentions en vue de la fête de la musique qui sonne et résonne différemment. Par exemple, le gala ne peut pas mettre en lice les albums dont une des chansons a atteint le top 30 BDS francophone ou anglophone lors de l'année de recensement. Lydia Kipinski, avec Podcast, Dead Hobbies et Antoine Corriveau se sont entre autres démarqués avec 3 nominations. Le GAMIC aura lieu le 26 novembre au Café Campus à Montréal. La tournée des journaux régionaux dans le droit, Justine Mercier, l'Outaouais accroît son poids démographique. L'Outaouais a vu son poids démographique s'accroître au cours des 15 dernières années. Avec un peu plus de 389 000 habitants l'an dernier, la région représente désormais 4,7 % de la population du Québec. Le plus récent bulletin statistique régional rendu public mardi par l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, montre que l'Outaouais a ainsi vu son poids démographique dans la province gagner 0,3 point de pourcentage en 2016 par rapport à 2001. À l'échelle régionale, la ville de Gatineau a également pris un peu de poids. Avec près de 281 400 résidents selon les données provisoires de 2016, Gatineau rassemble 72,3 % de la population régionale, une hausse de 0,7 point par rapport à 15 ans plus tôt. Dans le soleil, Mylène Moisan, une chronique intitulée « Éloge de la vieillesse ». Vous devez vous en douter, après tout ce temps, j'aime les vieux. Je bois leurs paroles comme un grand cru. Ils ont des notes de chêne et de galette à la mélasse. Ma toute première chronique, écrite en 2004, avait un titre sans équivoque, « Le vieux ». Il était assis sur un banc de parc sous les grands ormes du boulevard Langelier. Je me suis approchée de lui. Je me suis assise à côté. Il faisait beau. C'est comme ça que je suis entrée dans son histoire, par la météo. Fait beau, hein? C'était le début de l'automne. L'homme profitait de ses dernières belles journées avant le froid. L'hiver s'en vient. Ils sont à la veille d'enlever les bancs. Je suis restée une couple d'heures à jaser avec ce vieux dont je n'ai jamais su le nom. J'ai découvert une sorte de transhumance urbaine, des habitants du quartier qui cohabitent sur le terre-plein pendant les beaux jours, qui se quittent lorsque la ville range les bancs. J'ai repensé à cet homme et aux autres personnages de ce théâtre en plein air quand on m'a demandé de faire la préface pour un livre sur les vieux, justement. Je dis « vieux » avec le même respect que je dis « jeune ». Être vieux n'est pas une tare, c'est un moment de la vie, une somme. Le livre, donc, c'est l'idée du service amical Basse-Ville. J'aime déjà le fait que son nom ne soit pas un acronyme, qu'il soit amical surtout. L'organisme a pignon sur rue dans le quartier Saint-Roch. Il donne un coup de main à près de 2000 personnes pour toutes sortes de services. Le ménage, la bouffe, le transport, l'écoute, name it. Les filles qui s'occupent du service amical ont eu l'idée de faire un recueil d'histoires de personnes qui utilisent leurs services. pour montrer que chaque personne a une histoire qui mérite d'être racontée. Et pour écrire les textes, les filles ont choisi 16 auteurs. Elles les ont jumelés avec 16 personnes. Ça donne un bouquin émouvant, magnifiquement illustré par les photos d'Alison Van Russell, pleine de lumière et de simplicité. Alison ne s'est pas fait prier pour participer à ce projet, tout comme Philippe Mottet, auteur et enseignant de littérature au Cégep Garneau, qui a dirigé « Tout ce beau monde ». Le titre choisi n'est pas anodin. « Derrière les apparences ». Parce que c'est souvent ce qui arrive avec les vieux. On finit par ne voir que leurs rides et leurs cheveux gris, à ne plus les entendre. À penser comme Brel que les vieux ne parlent plus ou alors seulement du bout des yeux. 16 fois, le livre fait mentir Brel. Comme ses deux sœurs trop charmantes, Pierrette et Donate. Juste de s'appeler Donate, c'est le point de départ d'une histoire. Ça est de venir d'une famille de 17 enfants élevés dans le quartier Saint-Sauveur. Elles en ont juste connu 10, les autres sont morts jeunes, probablement d'une maladie qui se guérit aujourd'hui, comme une pneumonie. Annie Cloutier a raconté comment leur mère faisait son devoir à la maison et leur père qui travaillait pour le tramway. Pensez-vous que votre mère était heureuse? Ah oui, jamais elle ne se plaignait. On a bien vécu, bien mangé. Oh, qu'on a bien mangé! On n'était pas riches, mais nos parents étaient sociables et débrouillards. Ils rencontraient toujours des gens qui leur offraient de la nourriture. Dans le quartier, on était les seuls à avoir un frigidaire, puis un téléphone. Voyez, juste dans cet échange que nous rapporte Annie, on voit tout de suite la société comme elle était il n'y a pas si longtemps. Donate et Pierrette ont vécu cette époque et elles sont là pour raconter. On a juste à écouter. L'auteur Christine Eddy a aussi prêté sa plume à l'ouvrage attendri. Ça se lit par « La petite reine de Saint-Roch » avec ses 5 pieds pile de sourire. Portrait intimiste de cette femme qui aurait voulu devenir chanteuse, qui voue un véritable culte à Doris Day, qu'elle écoute en boucle. Et elle chante « Que sera, sera ». La petite reine a eu une fille, elle est veuve de son beau blond. Elle ne lit pas, ne boit pas, ne fume pas. Elle n'a pas d'ordinateur, pas de voiture. Elle me raconte le ton léger qu'elle a déjà dansé avec un ministre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'intéresse à la politique. Elle vote seulement si ça la tente. Entre guillemets, elle préfère croire en Dieu. C'est comme ça sur presque 150 pages, où on entre dans la maison de ces 17 personnes, où on s'assoit à la table de la cuisine avec elle. On en ressort avec une certitude. Brel avait tout faux. Dans le quotidien Myriam Gauthier, une ambulance avec des pierres tombales pour l'Halloween. Plusieurs ambulanciers ont décidé de décorer leur ambulance pour l'Halloween à travers la province en guise de moyens de pression. L'une d'entre elles, sur laquelle des pierres tombales sont peintes, attire l'attention à la baie. Les décorations d'Halloween s'ajoutent aux moyens de pression des ambulanciers dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective échue depuis le 31 mars 2015. L'idée est née dans le nord du Québec il y a environ 2 à 3 semaines et le mouvement s'est répandu progressivement dans la province, a indiqué le président du syndicat des paramédics du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin Harvey, lors d'un entretien téléphonique avec le quotidien mardi en soirée. Les ambulanciers sont libres de le faire et aucune directive n'a été envoyée par le syndicat. Les décorations peintes par les syndiqués à la peinture à l'eau varient d'une ambulance à l'autre. Ça varie selon l'artiste, a lancé le président. Les décorations ne sont pas permanentes et devraient disparaître avec la pluie. Questionné à savoir si les pierres tombales qui apparaissaient sur une ambulance à la baie pourraient choquer la population, M. Harvey a souligné que le but de ces moyens de pression n'était pas de prendre la population en otage. Ce sont des moyens de pression, c'est sûr que tout peut choquer ces temps-ci. Le but recherché, c'est justement qu'on en parle. Les gens s'expriment et ils commencent à en avoir ras-le-bol. C'est pour ça que vous voyez des affaires de même. Il croit que la population sera en mesure de faire la part des choses. Et toujours dans le quotidien, Anne-Marie Gravel, une ours et son ourson happés. Une ours et son ourson sont morts après avoir été happés par une voiture sur le boulevard Talbot lundi soir. L'accident est survenu aux environs de 20 heures face à l'hôtel Mont-Valin, à La Terrière. Une conductrice qui circulait en direction sud a frappé les deux bêtes qui se trouvaient sur la route. La dame n'a pas été blessée, mais son véhicule a subi des dommages matériels. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports a récupéré les corps des animaux en matinée mardi. Des agents de la protection de la faune se sont également rendus sur place où ils ont découvert qu'un deuxième ourson, toujours vivant, se trouvait à proximité. Merci d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service quotidien en ce mercredi 11 octobre 2017. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très belle journée. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Quant à moi, je vous retrouve à l'émission Les Paractualités.